France Inter.
France Inter. Le 18-20. Christelle Rebière.
C'était le 9 juin 2024, il y a un an et 28 jours, il y a un siècle, une éternité. Le Rassemblement National sortait vainqueur des élections européennes et moins d'une heure après les résultats, Emmanuel Macron s'adressait aux Français depuis l'Élysée.
J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Cette décision est grave, lourde. Mais c'est avant tout un acte de confiance. Confiance en notre démocratie. Cela vaut mieux que tous les arrangements, toutes les solutions précaires. La France a besoin d'une majorité claire pour agir dans la sérénité et la concorde.
Le président utilisait donc l'article 12 de la Constitution pour renverser la table, espérant couper l'herbe sous le pied de l'opposition. Un séisme, le plus grand choc politique depuis le 21 avril 2002. Alors, à partir de demain, Emmanuel Macron aura de nouveau le droit de dissoudre, mais le voudra-t-il? Et vous, vous qui nous écoutez, le souhaitez-vous? Une nouvelle clarification est-elle souhaitable, vraiment, voire possible? Car depuis un an, l'Assemblée a donné le visage d'un hémicycle rugissant aux majorités de circonstances sur fond de rappel au règlement, de blocage et autres motions de rejet utilisées à contre-emploi, sans compter les motions de censure à répétition. Étrange époque, sans majorité à l'Assemblée, avec des premiers ministres en sursis permanent. Pas de cohabitation, non, mais pas de coalition non plus. La vie politique semble ballottée entre instabilité et immobilisme, avec un exécutif affaibli. Alors faisons ensemble le bilan de cette 17e législature. Peut-on vraiment parler de crise de régime? Faut-il relancer les dés d'une nouvelle solution, changer le mode de scrutin? Est-ce que ça peut durer encore 2 ans comme ça? C'est le téléphone sonne ce soir et vous êtes les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et bonsoir Dominique.
Bonsoir France Inter, bonsoir à vos invités. Si on se réfère un peu à la fameuse censure et lorsque le président de la République a nommé Elisabeth Borne Premier ministre, on s'aperçoit que la démocratie malheureusement a été un peu chancelante puisqu'elle a abusé de l'utilisation du 49.3 qui ressemble un peu peut-être à la censure. Donc dans une instabilité aussi, la France qui est dans une instabilité politique, comment voulez-vous pouvoir trouver des solutions aux problèmes qu'on rencontre déjà la dette publique, ensuite on ne peut pas tout énumérer.
C'est une instabilité qui n'est pas nouvelle, donc vous nous dites, Dominique, et qui vous inquiète?
Oui. Mais bien évidemment, ça inquiète. Ça inquiète, la dette publique inquiète. Les retraites, vous voyez très bien que François Bayrou, le Premier ministre, est en train à peine à trouver des solutions pour, en quelque sorte, s'apercevoir que les retraites, c'est important aussi.
Merci de votre intervention, Dominique. C'est vous qui lancez le sujet ce soir. Et pour vous répondre, Blanche Léridon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice éditoriale de l'Institut Montaigne, c'est un think tank libéral. Bonsoir Stéphane Zumsteg.
Bonsoir.
Directeur du département opinion et politique à l'Institut de sondage Ipsos. Et bonsoir évidemment à Maxence Lambrecq. Bonsoir Maxence.
Bonsoir Christelle, bonsoir à tous.
Que vous connaissez très bien, vous, auditeurs de France Inter, puisque c'est le chef du service politique de notre station. Donc, inquiétude, est-ce que c'est quelque chose, par exemple, que vous percevez aujourd'hui, Blanche Léridon, l'inquiétude des citoyens français? Est-ce que c'est ce qui l'emporte? Parce qu'on a l'impression qu'ils sont partagés entre l'inquiétude, l'incompréhension et la colère aussi.
Il y a un peu de tout ça, effectivement. Mais ce que je trouve intéressant dans le commentaire de Dominique, c'est qu'il date en réalité cette inquiétude-là bien avant la dissolution, puisqu'il fait allusion à la nomination d'Elisabeth Borne au poste de Premier ministre et à son recours, effectivement, particulièrement récurrent à l'article 49 à l'alinéa 3, et en particulier pour faire adopter les budgets. Donc ce qui montre bien que la séquence, certes, elle a été aggravée par la décision encore parfaitement incompréhensible pour beaucoup de nos concitoyens de dissoudre, mais que le mal vient de plus loin, en quelque sorte, et que donc donc dès 2022, en réalité, avec cette absence de majorité absolue, on s'est retrouvé dans cette situation qui a créé de l'inquiétude. Et on a aussi des Français qui sont, je crois, très mécontents de la façon dont l'Assemblée nationale fonctionne aujourd'hui. Nous, avec Ipsos, l'Institut Montaigne et nos autres partenaires, on a chaque année une grosse enquête qui s'appelle Fracture française, oui. Et qui permet d'interroger un petit peu les Français sur un certain nombre de champs et de préoccupations. Et Fracture française montrait bien qu'il y avait un jugement très sévère des Français à l'égard du fonctionnement de l'Assemblée depuis la dissolution l'occurrence, et qu'il y avait une désapprobation globale du fonctionnement de cette institution, et aussi, et peut-être surtout, une confiance dans les députés qui avait absolument chuté, puisqu'on est passé de 29% de confiance en 2023 à 22% de confiance en 2024. Fracture française, l'édition de l'année dernière, a été publiée en décembre, donc je pense que si on reprenait aujourd'hui, les chiffres seraient certainement encore plus faibles.
Et dans votre enquête, 9 Français sur 10 considéraient que le pays était en déclin.
Exactement.
Ce qui était quand même extrêmement grave. Stéphane Zumsteg, comment l'opinion finalement a évolué depuis ce 9 juin 2024 ?
Elle a évolué de façon assez, pas surprenante, mais en tout cas assez sensible. Au début, qu'est-ce qui se passe ? C'est que, très bien, il y a un laps de temps tout l'été pour trouver un Premier ministre. On trouve enfin Michel Barnier. Michel Barnier sera censuré dans le contexte que l'on connaît par une décision du Rassemblement national.
Il a fallu après, 67 jours.
Hein, il a fallu 67 jours.
Michel
Donc,
Barnier.
Parmi tous les sentiments que vous évoquiez, évidemment, il y a la colère, il y a l'exaspération, il y a aussi une grande lassitude à l'égard de la vie politique et donc de l'immobilisme, ou de l'immobilisme supposé de l'Assemblée nationale et donc de l'action publique. Et c'est ça sans doute le plus grave, c'est que pour une part de plus en plus importante des Français, eh bien, il y a le sentiment qu'il ne se passe plus rien, sans doute à tort, parce qu'il y a des lois qui sont votées, il y a des réformes qui ont été votées dès 2002. Mais enfin, le germe de l'immobilisme, il est, vous le disiez à l'instant, il commence en 2022. Emmanuel Macron réélu facilement, voire très facilement, 17 points d'avance sur Marine Le Pen, et qui, 6 semaines après, est d'une certaine façon censuré, puisqu'il ne dispose pas de la majorité absolue. Et ensuite, les choses sont allées de plus mal en plus mal, et parmi les autres sentiments, parce qu'on parle de la colère, il y a ce sentiment, ce qui n'est véritablement pas accepté dans l'attitude d'Emmanuel Macron, en tout cas c'est comme ça qu'ils nous le disent, c'est que c'est la décision d'un homme seul, c'est une sorte de bras d'honneur quelque part, d'une décision d'amour propre envoyée aux Français en fait. Vous venez de m'administrer une correction électorale, c'était le soir des élections européennes, et les résultats étaient déjà désastreux pour ce bloc central, et bien moi je dissous. Et il y a ce sentiment de quelqu'un de seul qui prend des décisions inconsidérées pour se faire plaisir, et c'est ça qui aujourd'hui a le plus abîmé la relation que les Français peuvent avoir avec le reste de la classe politique, parce que le personnage le plus puissant de l'ordre institutionnel français a pris une décision totalement incompréhensible, ou pire qu'incompréhensible, une décision véritablement contre le bon sens, pour faire la démonstration que c'est lui qui était toujours le maître des horloges, alors qu'il n'a fait qu'ajouter de la confusion à la confusion.
Maxence Lambrecq, c'était une erreur politique, une erreur stratégique ?
En tout cas, c'est vrai que le bilan de l'Assemblée nationale vient d'être fait, puisque la première année, disons, est passée. Et c'est vrai que ce ne sont quasiment que des tout petits textes qui ont réussi à trouver un chemin.
C'est, par la loi fin de vie.
Voilà, le texte fin de vie qui n'en est pas du tout au bout de son parcours. Et peut-être d'ailleurs qu'il n'arrivera pas jusqu'au bout avant la fin de ce quinquennat. Mais oui, c'est vraiment une succession de tout petits textes dont on ne voit pas trop le sens. Il y a 6 textes santé, par exemple. Et il y aurait pu y avoir un projet de loi, mais non, c'est trop risqué, donc pas de projet de loi. En tout, il y a eu 39 propositions de loi examinées, 8 projets de loi seulement sur cette année. Et finalement, oui, l'homicide routier a été reconnu. Oui, la profession d'infirmier a obtenu quelques garanties supplémentaires. Le métier d'agriculteur, demain, il y a un texte qui sera voté. Mais en fait, il n'y a jamais de projet enthousiasmant, et on a l'impression que ça n'a plus vraiment de lien avec le réel et avec le concret. Sauf en effet ce texte fin de vie. Le texte sur la délinquance des mineurs a été en partie rejeté par le Conseil constitutionnel. Et tous ces petits textes mis bout à bout ne font pas une politique, ne donnent pas un cap et ne donnent pas l'impression que la politique est capable de changer la vie des gens.
C'est ça qui a changé au fond le plus, Blanche Léridon.
Oui,
on ne change pas la vie. Pardon, je fais une parenthèse, mais c'est vrai que les préoccupations des Français au moment des élections législatives l'année dernière, c'était pouvoir d'achat, de l'immigration. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé depuis là-dessus?
Très
rien. Il n'y a pas de texte législatif autour de ça.
Non, après, ça ne mérite pas forcément que du législatif, en l'occurrence, mais c'est vrai.
Les textes sur l'immigration, on en a eu suffisamment, oui, je crois, oui, ces 30 dernières années.
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être ce sentiment de ne pas être écouté.
Bien sûr, mais peut-être pour ajouter au petit bilan, effectivement, là, on a du recul sur une année de cette 17e législature, donc, qui est sortie des urnes au mois de juillet l'année dernière. Élément très intéressant aussi de bilan, c'est l'inversion entre la part des projets de loi, vous savez, qui sont à l'initiative du gouvernement, et la part des propositions de loi. C'est-à-dire que les textes dont on parle, que ce soit la fin de vie, que ce soit le texte sur l'audiovisuel dont on parle beaucoup en ce moment et qui est très controversé, ben ces textes-là, ils sont d'initiative parlementaire. Et donc là, on a une inversion de l'équilibre. Avant, c'était les projets de loi qui émanaient du gouvernement, qui étaient les plus discutés en séance. Et aujourd'hui, on a une inversion de ce paradigme-là avec davantage de propositions de loi à la fois déposées, mais ça, c'est normal, c'est courant. Il y a 909 propositions de loi qui ont été déposées à l'Assemblée nationale sous la 17e législature. Et comme le disait Maxence Lambrecq à l'instant, vous en avez une petite trentaine qui ont été adoptées, ce qui est beaucoup plus important que le nombre de projets de loi adoptés. Donc on voit quand même que, et c'est intéressant parce que j'entendais ce matin sur votre antenne Yael Braun-Pivet déplorer un petit peu cette
la présidente de l'Assemblée nationale,
qui pourrait d'une certaine manière être considérée comme une progression des prérogatives parlementaires dans la mesure où que le législatif soit à l'origine des textes qu'il examine ne paraît pas en soi le signal d'un dysfonctionnement, mais peut-être plutôt d'une santé ou en tout cas d'une prérogative renforcée venant de l'Assemblée nationale. Donc c'est vrai qu'il y a un certain nombre de nuances, et je voudrais terminer en disant que peut-être le drame aujourd'hui, c'est qu'effectivement on fait des petites choses. Donc l'Assemblée, elle est parfaitement dysfonctionnelle, mais elle n'est pas encore suffisamment chaotique et empêchée pour qu'il y ait une vraie prise de conscience et un vrai électrochoc. On se dit, bon, on ne peut plus continuer comme ça. Donc en fait, on vivote et on continue à se satisfaire de cet entre-deux qui est satisfaisant pour personne, mais qui n'est peut-être pas encore suffisamment chaotique pour créer l'électrochoc nécessaire.
Maxence Lambrecq, on vivote.
Oui, on vivote avec des textes en plus souvent pas très bien travaillés, il faut dire les choses. Les propositions de loi n'ont pas d'études d'impact. Elles n'ont
alors
pas...
voilà, il faut quand même expliquer, nous, parce que je crois que c'est important de faire...
C'est vrai qu'une proposition de loi est faite...
La différence entre une proposition de loi d'origine parlementaire et un projet de loi. Expliquez-nous.
C'est vrai que le projet de loi a un parcours beaucoup plus long. Il est... Évidemment, le Conseil d'État se prononce dessus avant même qu'il soit présenté en Conseil des ministres. Il y a une conciliation, une concertation plus large. Une proposition de loi peut vraiment émaner d'un bureau d'un député qui, avec ses trois collaborateurs, se mettent d'accord. Un collaborateur juridique qui fait rentrer l'idée dans la loi. Et ensuite, il y a là, c'est parti. On se retrouve en séance, en commission, etc. Il n'y a pas d'étude d'impact. Bercy, en général, ne chiffre pas. Il n'y a pas non plus d'avis du Conseil d'État. Et ces textes peuvent être très largement fragilisés ensuite dans leur application ou même contestés par le Conseil constitutionnel ensuite. Donc c'est sûr que là, le bilan est faible dans tous les sens. Je veux dire, le nombre de textes, les textes mêmes, et on n'en a pas fini. Et je veux dire, là... L'année qui s'ouvre, donc la session extraordinaire va se terminer
à la fin de la semaine.
Vendredi. Bon, l'année suivante se présente un peu de la même manière.
Et alors, en fait, on a l'impression qu'on est dans le brouillard depuis un an.
Oui, mais je pense...
Et que le brouillard ne se dissipe pas.
On peut y rester, bien sûr, parce qu'on va arriver donc sur le budget. Hein, ça sera ce qui prendra l'essentiel de l'agenda parlementaire en octobre, novembre et décembre prochain. Mais sur la question budgétaire, ce sera tout aussi difficile. Et on sentira bien qu'on partira très haut, sans doute, avec 45 milliards d'économies. Et puis, chaque semaine, peut-être qu'il y aura un milliard de moins pour essayer d'obtenir une non-censure du RN et du PS.
Et on a quand même l'impression
que c'est l'autre texte dont on devine. Voilà. Qui sera peut-être mis à l'ordre du jour, mais c'est vrai, d'ailleurs la présidente de l'Assemblée nationale le déplorait à votre antenne ce matin, elle disait « je suis le seul Parlement en Europe à n'avoir absolument aucune visibilité sur mon programme de travail à la rentrée ». Et là on comprend, elle est parfaitement légitime à adresser ce reproche-là.
On va écouter Lionel qui vient de nous laisser une note vocale.
Bonjour France Inter, j'ai pas vraiment d'avis par rapport à la dissolution côté positif, hein, plutôt côté négatif, mais il me semble qu'à l'époque ça avait eu un avantage, c'était de remettre les élections parlementaires à une date qui viendrait forcément après les élections présidentielles, et donc d'éviter le fait que les parlementaires servent de terrain d'essai à une élection présidentielle. Voilà, j'aimerais bien savoir ce qu'en pensent vos invités.
effectivement, ce découplage, c'est intéressant. Ça fait longtemps que ce n'était pas arrivé, ce découplage entre les élections législatives et la présidentielle. Qu'est-ce que ça va changer, Stéphane Zumsteeg?
Ce que l'inversion du calendrier législatif électoral avait changé, décidé par Jacques Chirac, c'est que finalement, les élections législatives, d'un coup, parce qu'elles suivaient immédiatement l'élection présidentielle, n'étaient que des élections de confirmation. Ça s'était produit évidemment en 2017 avec Emmanuel Macron disposant d'une très large majorité. Et grande surprise, ce que personne n'avait vu venir, c'est que lors de sa réélection, là, je le répète, qui a été facile, 17 points d'avance sur Marine Le Pen, eh bien, malgré tout, et c'est là quand même le premier signe du bouleversement qui s'annonçait, ce bloc central, la Macronie, n'a pas été capable d'obtenir la majorité absolue. Et à partir de là, il y a eu des réformes importantes. On parlait de vivoter depuis 2024, mais entre 2022 et 2024, il s'est passé beaucoup de choses. La réforme des retraites, le projet de loi immigration. Ça a contribué à abîmer, évidemment, la vie politique, la relation que pouvaient entretenir les Françaises et les Français avec l'exécutif, notamment avec Emmanuel Macron, quand on se rappelle que cette réforme des retraites est passée quand même au forceps, hein, qu'un 49-3 a échoué de 7 députés, ou 9, je ne sais plus, de 9 députés, mais malgré tout, ça fonctionnait, mais ça ne fonctionne plus du tout en 2024. Et là, on se retrouve dans une situation bien plus dramatique, c'est qu'on a beaucoup parlé de la tripartition de la vie politique,
mais
aucun des trois blocs n'approche de la majorité absolue. C'est-à-dire qu'ils ont tous énormément, énormément de sièges qui leur manquent pour y accéder. Et c'est vraiment ce qui a changé, cette inversion, c'est que là, vous avez l'Assemblée nationale qui a repris en partie le pouvoir, mais en servant aux Français un spectacle qui ne leur plaît pas. Les invectives, c'est pas nouveau, les invectives dans la vie politique.
Les Français détestent ça.
Ben, en tout cas, ils le détestent aujourd'hui, parce qu'on est dans une situation bloquée. Quand vous avez un bloc qui dispose d'une majorité, qu'il soit de gauche, du centre ou de droite, très bien, l'opposition s'oppose, et parfois, verbalement en tout cas, violemment, ça fait partie, non pas du folklore, mais du fonctionnement de la vie politique française depuis très longtemps. En revanche, quand vous invectivez, en fait, il ne s'agit que de traiter les autres de fascistes, d'islamo-gauchistes ou de ceux que vous voulez, et que les projets de loi ou les propositions de loi n'avancent pas ou sont bloquées ou sont retoquées, là, quelque part, on retrouve ce dont on disait tout à l'heure sur l'exaspération des Français qui disent, mais finalement, à quoi ça sert de voter puisqu'ils ne sont même plus capables de voter des textes.
Maxence Lambrecq.
Ce qui est très frappant, c'est qu'on refait souvent le film de 2022, de ces 6 semaines entre la présidentielle et le premier tour législatif. Souvent, lors des déjeuners avec des députés, avec des ministres, on revient là-dessus, sur cet épisode, le premier épisode de la non-campagne des législatives d'Emmanuel Macron, qui improvise sur le tarmac d'un aéroport un petit speech. Finalement, le slogan, c'est 50+, mais ça va pas bien au-delà. Et au fond, ce raté des législatives de 2022 est le point de départ. On voit où ça a nous mené. Mais c'est vrai, il y a une relecture de il avait gagné, et puis finalement, il avait l'impression que c'était fait, et il ne voyait pas le danger venir. C'est vrai que le point de départ est celui-là.
Blanche Lérédon, on l'avait déjà identifié. Oui. Le point de départ, c'est 2022.
Oui. C'est ça, mais la grande inconnue désormais, c'est est-ce que si demain, en 2027, on a une nouvelle présidente de la République qui retrouve les capacités de dissoudre si le président actuel n'a pas dissous d'ici là, est-ce qu'il aura cette majorité absolue comme on l'observait? Et ça, rien ne le garantit aujourd'hui, puisque la tripartition, elle semble quand même durable. Quand on regarde les enquêtes d'opinion aujourd'hui, les dynamiques n'ont pas fondamentalement évolué. D'ailleurs, si on se pose la question d'une nouvelle dissolution demain, donc qui serait plébiscitée par 50% de nos concitoyens, rien ne garantit que la composition de l'Assemblée nationale change d'un iota par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui, qu'elle nous permette de sortir avec une majorité claire, cette fameuse majorité claire qu'appelait de ses voeux dans l'audio que vous venez de diffuser au début de l'émission. Donc c'est là où il y a une grande inconnue. Alors bien sûr, ce précédent-là la campagne manquée entre la présidentielle et législative, je pense qu'elle va marquer les esprits et que personne ne s'aventurera à être aussi désinvolte dans l'entre-deux de ces scrutins qui sont majeurs. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut craindre, alors je ne sais pas s'il faut le redouter d'ailleurs, mais en tout cas, ce qu'on peut prédire, c'est qu'on se retrouve avec une situation similaire, c'est-à-dire pas de majorité absolue à l'issue des élections législatives qui suivront les présidentielles de 2027.
Et même aujourd'hui, d'ailleurs, Yael Braun-Pivet le disait ce matin sur notre antenne, si on devait dissoudre aujourd'hui, le résultat serait probablement le même.
potentiellement quelques pertes hein, dans le socle commun qui s'est quand même un peu abîmé, il faut le dire, hein, puisqu'il a perdu beaucoup en termes de lisibilité.
Le socle commun, on va dire, c'est ce qu'on appelait autrefois la majorité, mais comme ils sont plus majoritaires.
Eux-mêmes ne veulent pas reprendre ce terme, parce qu'ils n'ont rien vraiment de commun, donc on ne sait plus comment les appeler eux-mêmes non plus.
Pas de Front républicain aussi, c'est un front républicain qui sera sûrement moins...
faible.
Oui, puisque le nouveau Front populaire n'est plus tout à fait le nouveau Front populaire.
Et certains disent, en gros, ça ressemble à la 4ème République qui se délite, et il faudra changer de République pour changer tout ça.
Oui, une éventuelle dissolution ne changerait effectivement, vous avez raison Maxence, pas grand-chose, mais s'il y a bien une force politique qui a le plus à perdre, c'est la Macronie, enfin c'est ce qu'on appelait à l'époque la Macronie, je ne sais pas si ça existe encore, c'est ce bloc central, même pas le socle commun, mais le bloc central. Ils avaient perdu une centaine de députés en 2024, mais ils en perdraient encore plus, et on assisterait probablement, c'est pas de la fiction que de dire ça, mais au vu des élections partielles qui ont eu lieu, au vu du retour de la droite, Michel Barnier à Matignon, puis ensuite Bruno Retailleau à Place Beauvau au ministère de l'Intérieur, probablement un petit rééquilibre au sein de ce socle commun.
En faveur de la droite républicaine
et en défaveur du bloc central. Donc moi, dissoudre maintenant le président de la République, ça changerait aussi autre chose de bien plus grave, c'est qu'une deuxième gifle, une éventuelle deuxième gifle, et je ne vois pas comment ça pourrait être, il pourrait en être autrement, là ça reposerait la question de la légitimité, de la pérennité d'Emmanuel Macron à l'Élysée, en tout cas jusqu'en 2027.
Bah, je crois qu'on va y venir un petit peu avec Marc, bonsoir.
Bonsoir Castel-Robière, bonsoir à vos invités et à tous. Alors, vous nous dites que M. Macron peut à nouveau dissoudre l'Assemblée, la belle affaire. La réalité est que M. Macron s'est lui-même dissous, il s'est auto-dissous. Ce que Stéphane Zumzeck vient de dire sur l'état de la Macronie, c'est tout à fait cela. À force de changement de cap et à force de ne pas faire ce qu'il dit, M. Macron n'a plus aucune crédibilité, que ce soit à l'intérieur comme en politique étrangère. Ah pardon, il n'a qu'une seule constante, il se comporte toujours comme le laquais des oligarques, des intérêts financiers qui l'ont porté au pouvoir.
Alors vous nous dites, si j'entends bien Marc, vous nous dites qu'il n'a plus de crédibilité aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Moi il y a une petite phrase hier qui m'a interrogée, c'est le ministre des Affaires étrangères. Et là on parle du domaine réservé hein, du président Jean-Noël Barrot dans Le Parisien. Il disait le poids de la France à l'extérieur dépend de sa force intérieure. Et ça il ne faut pas le sous-estimer,
bien sûr. Maxence. Évidemment, et une deuxième censure sur le budget 2026, qui est quand même probable, hein, étant donné les forces contraires que François Bayrou affronte, enverrait un signal extrêmement fort à l'international d'un pays qui n'arrive pas à avoir de budget deux fois de suite. Et en effet, on ne voit pas tellement Emmanuel Macron là-dessus rebondir, retrouver une solution, rechercher un Premier ministre bis, encore un de ses amis, enfin, et à l'international, bien sûr que déjà beaucoup de ministres européens, d'homologues, des ministres actuels se demandent mais qu'est-ce que ça va donner, mais jusqu'où vous allez aller, est-ce que vous allez tenir. C'est vraiment une question récurrente dans les conseils européens à Bruxelles quand ils se retrouvent. C'est une question récurrente de mais quel est votre pouvoir en intérieur et donc quel est votre pouvoir à l'extérieur. Et c'est vrai que les dernières séquences malheureusement pour Emmanuel Macron sont mauvaises puisque en Ukraine rien n'a vraiment évolué, puisqu'en Israël rien n'a évolué, puisqu'en Iran rien n'a évolué, et enfin il n'a jamais été à l'œuvre et au premier plan.
Il est considérablement affaibli, on va dire plus affaibli que jamais. Est-ce que vous diriez, Blanche Léridon, que c'est le président de la République le plus affaibli de la 5e aujourd'hui ou pas?
Alors ça, on l'a dit, je crois, pour l'ensemble de ses prédécesseurs. Donc je ne sais pas s'il faut être trop brutal là-dessus. Il y a quand même une volonté à l'international sincère et réelle de marquer les choses. Et il y a quand même, autour de la coalition des volontaires sur l'Ukraine, avec le nouveau chancelier Merz, avec le Royaume-Uni, avec la Pologne aussi, Donald Tusk, on voit qu'il y a des initiatives qui sont prises et qui ne sont pas prises à la légère. Donc je crois quand même qu'il y a une volonté de faire avancer les choses et effectivement qui, pour l'instant, se heurte à un contexte international où la force semble primer sur toute recherche de conciliation et de dialogue. Donc c'est vrai que c'est une séquence qui ne lui est pas du tout favorable, mais quand même, il y a, je crois, auprès d'un certain nombre de chancelleries européennes, toujours l'idée que Emmanuel Macron, sur les sujets internationaux, bien sûr, a une forme, non pas de leadership, mais en tout cas d'effet d'initiative. Mais tout le monde reconnaît aussi son immense fragilisation du fait de la situation interne qui lui est très largement imputable.
Donc la voix de la France porte, mais porte un peu moins, si on doit résumer sur la séquence politique
oui.
étrangère.
Oui, c'est un bon résumé, Christelle.
Non, voilà, merci.
Non, on ne va pas ajouter
Stéphane,
un bon
Stéphane Zumsteg.
Il est très impopulaire, il est très affaibli sur la scène nationale, c'est vrai. Et il n'enregistre pas beaucoup de succès sur la scène internationale, mais malgré tout, cette séquence diplomatique extrêmement dense et qui n'est pas terminée, hein, ça fait maintenant plusieurs mois depuis le début de l'année, lui a permis de gagner du temps. Parce que qu'est-ce qui a fondamentalement changé? C'est que la petite musique qui était notamment distillée par la France Insoumise, mais pas seulement, sur l'empêchement, sur la nécessité pour Emmanuel Macron de démissionner. Tout ça, c'est en tout cas momentanément au moins. On n'en parle plus parce qu'il y a bien une qualité que les Français reconnaissent au président de la République, c'est la capacité à les représenter, à représenter le pays, la France, à l'étranger. Bien sûr qu'il y a eu beaucoup de déconvenues. Bien sûr que la France pèse de moins en moins. Mais malgré tout, on parlait en introduction de déclinisme. La France considère que le pays est en déclin. Mais il y a bien une chose qu'ils adorent quand un président de la République, c'est bien le faire, c'est incarner le pays à l'étranger. En son temps, Nicolas Sarkozy, lors de la crise géorgienne, avait bénéficié d'un regain de popularité. Il n'y a aucun gain de popularité pour Emmanuel Macron, mais là encore, je le redis, à ce poste-là, en tant que représentant de la France en Europe et sur la scène mondiale, il est utile et donc il est légitime. Et cette petite musique qui pourrait revenir, notamment en cas de censure de François Bayrou à l'automne, bien sûr, en cas de dissolution, en cas de déconvenue sur la scène intérieure, eh bien pour l'instant, elle a disparu. Plus personne ne demande la démission, la décision du président de la République. Ce n'est pas définitif jusqu'en 2027, mais malgré tout, cette séquence l'a quand même servi.
Bonsoir Hervé.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu. Je crois que vous voulez prendre la défense du président de la République.
Alors, ce n'est pas vraiment prendre sa défense en soi. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il a dissous l'Assemblée, mais le résultat, c'est que nos élus, députés, sénateurs, pensent qu'à leur petit précaré, et en aucun cas pensent à l'intérêt de la France. Et ça, je trouve que c'est dommage parce que on aurait pu ouvrir une nouvelle ère sur le parti, on va dire démocratique de la France, avoir différentes idées et construire quelque chose de commun. Mmh. Et là, non, bah tout le monde reste campé dans son camp, en disant je verrai ce que je vais faire en 2027. Mmh. Et je trouve ça un peu dommage. Voilà.
Merci beaucoup, Hervé. Les députés, nous dit Hervé, ne cherchent pas à construire. Alors c'est vrai qu'il y a un an, tout le monde disait il va falloir trouver des compromis politiques. Finalement, on ne les a pas vraiment trouvés.
Oui, il y en a eu quelques-uns sur des petits textes, comme on l'a cité tout à l'heure, c'est-à-dire une vingtaine de textes transpartisans qui ont été adoptés. De fait, il y a eu quelques efforts de fait sur des sujets complètement consensuels. Pour le reste, la culture politique ne peut pas changer en un an. C'est l'histoire d'une génération. Je veux dire, on part d'un scrutin présidentiel, d'une incarnation très forte. Enfin, on ne peut pas basculer dans un système allemand du jour au lendemain. Donc, évidemment que les campagnes législatives de 2024 ressemblaient à une petite campagne présidentielle avec Jordan Bardella, avec Jean-Luc Mélenchon, avec Emmanuel Macron.
Mais est-ce qu'on peut avoir la culture du compromis quand il n'y a pas de coalition au pouvoir ?
Blanchet, bah, il y a une forme de coalition au pouvoir aujourd'hui, puisque
il n'y a pas de programme commun, il n'y a pas vraiment de programme commun.
Oui, mais il y a une espèce de voilà, vous avez la droite républicaine au ministère de l'Intérieur, vous avez des représentants du MoDem, vous avez des représentants de la République en Marche. Donc il y a une forme de coalition au pouvoir, mais c'est vrai qu'aujourd'hui cette culture du compromis, on a énormément de difficultés à l'obtenir aujourd'hui. C'est vrai que je pense que beaucoup de gens à un an après les élections sont déçues parce qu'on se disait un peu bon ben maintenant ça va être le retour du Parlement, ça va être la reparlementarisation de notre vie politique, et à certains égards parfois on a des petits signaux qui nous disent que ah tiens c'est peut-être un peu ça. On n'en a pas parlé depuis le début de l'émission, mais moi un des phénomènes majeurs que je retiens sur cette année-là, c'est quand même la montée en puissance des prérogatives de contrôle des députés. Vous savez, l'Assemblée nationale elle a deux vocations, elle légifère et elle contrôle l'activité du gouvernement. Pendant très longtemps, on s'est surtout concentré sur l'activité législative à proprement parler, et moins sur la dimension de contrôle. Cette année, on a vu cette dimension de contrôle progresser avec notamment la multiplication de commissions d'enquête. Les commissions d'enquête, chaque groupe politique a le droit d'en lancer à son initiative et sous réserve bien sûr qu'il n'y ait pas de poursuite judiciaire qui soit engagée sur des sujets similaires. Et aujourd'hui, on en a vu plus d'une dizaine qui ont été initiées. Mais
est-ce qu'il y en a déjà eu autant d'ailleurs ?
Il n'y en a jamais eu autant. Voilà. Non, non. Quand on compare, Yael Braun-Pivet, je crois, faisait le compte compte ce matin, et là, alors, c'est lié bien sûr au fait qu'il y ait 11 groupes politiques, mais aussi à la volonté de montrer que le Parlement travaille, et comme il est empêché dans sa fonction législative, eh ben, il se retranche sur sa fonction de contrôle avec des effets ambivalents, puisqu'on a eu certaines commissions d'enquête qui étaient clairement instrumentalisées à des fins politiques et qui servaient moins les intérêts qu'ils auraient dû servir que les hommes et les femmes politiques qui les incarnaient. Et donc c'est là où il y a encore une limite dans ce rééquilibrage et cette reparlementarisation du régime.
Stéphane Zumsteg.
Oui, vous disiez à l'instant qu'il n'y avait pas de culture du compromis, que ce n'est pas en 6 mois qu'on passait d'un régime français à un régime allemand ou espagnol. Certes, mais il faut aussi se mettre à la place des partis d'opposition. Enfin, il s'est quand même passé une chose, un événement majeur en termes d'équilibre des pouvoirs dans cette Assemblée, dans cette législature depuis 2024, c'est quand le Parti Socialiste a passé cette sorte de pacte de non-censure. Rappelez-vous, François Bayrou disant « on va créer un conclave, il n'y aura ni totem ni tabou. On pourra revenir sur tout, enfin, les partenaires sociaux négocieront et ce texte passera au Parlement
devant
le Parlement pour être voté. » Et vous avez un Parti Socialiste qui a pris un risque considérable vis-à-vis de son électorat et vis-à-vis de l'électorat du reste de la gauche et qui s'est senti très très vite roulé dans la farine. Quand François Bayrou, quelques semaines après, explique que de toute façon, il n'est pas question de revenir sur les 62 ans, c'est son droit le plus strict, évidemment, mais il ne fallait pas vendre le conclave comme une nouvelle façon de faire la vie politique. Et on se retrouve dans une situation où, finalement, le Parti Socialiste n'a pas censuré, je le redis en prenant énormément de risques électoraux, et qui, à peine le conclave achevé, eh bien, dépose une motion de censure. Ça aussi, c'est incompréhensible aux yeux de l'opinion publique. Mais tout le monde a les yeux rivés sur 2027, tout le monde est tétanisé, le Parti Socialiste a fait quelque chose et a quelque chose de considérable, me semble-t-il, et s'est retrouvé contraint, pour des raisons tactiques, évidemment, donc peut-être aussi pour des mauvaises raisons, de rétro-pédaler immédiatement. Donc on a des partis politiques qui sont souvent accusés par l'exécutif de ne pas être responsables, de ne pas prendre la mesure de la situation, de la catastrophe budgétaire qui arrive, mais vous avez un exécutif qui, à aucun moment, n'a fait de réels efforts, n'a fait de vrais pas. L'opposition n'a pas fait beaucoup de pas en direction de l'exécutif, mais on ne peut pas dire qu'il a été beaucoup aidé par le Premier ministre, par François Bayrou.
Je vous vois hocher de la tête, oui, non, Maxence Lambrecq.
Une petite devinette. Depuis, combien de fois tous les députés Modem, Horizon, Renaissance et LR se sont retrouvés dans une même pièce ces derniers mois? Zéro. Jamais. Jamais il n'y a une réunion commune avec tous les députés qui formeraient ce socle commun. Donc cet esprit de coalition, il n'a jamais été mis en œuvre. Et il n'y a aucun programme législatif qui a jamais été mis sur la table.
On comprend mieux la cacophonie au sein du gouvernement.
Ça n'existe pas. Il n'y a pas de réunion. Gabriel Attal, président du groupe Renaissance, et Marc Fesneau, président du groupe Modem, ne se sont pas vus en tête-à-tête depuis des mois. Depuis des mois, ils ne se sont pas vus.
Pour quelle raison ?
Parce que chacun a son calendrier. Gabriel Attal n'a aucune envie d'aider le modèle.
Vous voulez dire que chacun a son calendrier pour 2027 déjà ?
Gabriel Attal, c'est clair, il l'a même dit samedi devant Emmanuel Macron presque. Donc oui, c'est évident. Bruno Retailleau commence à se dire qu'il aura un rôle à jouer, etc. Et donc, il n'y a pas de coalition, il n'y a pas de programme.
Parce que c'est pollué par les ambitions présidentielles. Il y a presque un candidat par jour en ce moment.
Et quand ils se retrouvent, les petits déjeuners qui avaient été organisés tous les mardis matins entre les chapeaux à plumes à Matignon. Chacun se ment l'un l'autre. Donc en fait, François Bayrou arrête d'en organiser puisque au fond, il n'a pas d'interlocuteur fiable devant lui puisque en séance, ils agissent différemment de ce qui a été dit le mardi matin en petit déjeuner. Ils vont voter contre, ils vont prendre la motion de rejet et les LR vont voter contre les énergies renouvelables, etc. Donc il n'y a pas de fil, il n'y a pas d'interlocuteur.
Et juste un point, ils vont voter différemment et même là, il y a vos confrères de Politico ont fait un recensement extrêmement intéressant sur tous les votes de scrutin public, c'est-à-dire les votes dont on a un enregistrement fiable et ont bien démontré que la droite républicaine avait davantage voté avec le Rassemblement National qu'avec les partis du Modem, d'Horizon et La République En Marche. Donc on voit même qu'il y a plutôt une tendance à voter avec le Rassemblement National qu'avec le socle commun.
On repart au standard. Bonsoir Jean-Jacques.
Oui, bonsoir. Merci de prendre mon appel et merci pour vos émissions. Moi, je revenais sur la politique française, vous allez parler aussi de l'international, et sur le blocage de l'Assemblée nationale, et particulièrement pour ce qui peut préoccuper quand même un certain nombre de Français, c'est sur le vote du budget. Vu que, en fin de compte, il y a 3 blocs, et que, en fin de compte, chaque bloc a, à vrai dire, une certaine vision de comment pourrait être équilibré le budget, est-ce qu'il ne serait pas, en fin de compte, d'une certaine façon, à proposer aux Français, puisque les députés n'arrivent pas à se mettre d'accord, un référendum avec trois projets de budget, et les Français choisiront parmi les trois projets de budget.
C'est une bonne question. Merci Jean-Jacques. Maxence, bon, c'est un peu touffu quand même, parce que si on doit éplucher chacun le projet de loi de finances qui est quand même assez compliqué, même nos spécialistes maison ont parfois du mal à s'y retrouver quand même, c'est très ambitieux pour le citoyen moyen.
Mais oui, mais ce serait une initiative, une nouvelle. Il y a eu la convention citoyenne qui a été inventée. Le référendum sur le budget, ça n'existe pas en effet.
Roule l'avait envisagé il y a quelques mois.
En disant, sur le budget
sur les finances publiques, en disant êtes-vous d'accord pour cette trajectoire, oui ou non? Ce qu'Emmanuel Macron, évidemment, n'imagine pas une seconde, puisqu'il connaît la réponse.
Au-delà de la question du référendum sur le budget, est-ce que un référendum en général, ça pourrait aider à sortir de cette situation quand même? Et à faire en sorte que les Français renouent un peu, soient un peu moins fâchés avec leurs représentants.
Il faut bien formuler la question, parce que celui qui la pose...
En général, on sait qu'ils répondent non, les Français, à la question.
Oui, et le gros risque quand même, c'est que tout ça se termine par une campagne contre Emmanuel Macron et contre François Bayrou, et qu'on trouve des arguments, même si le texte est plus ou moins consensuel, ou la proposition, pour s'opposer.
En fait, ne répond pas à la question, mais on censure en quelque sorte celui qui la pose.
Oui, c'est le gros risque, et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron a failli annoncer des référendums et puis finalement, il n'a pas annoncé de référendum l'autre soir sur TF1 parce que il ne sent toujours pas la bonne question qui pourrait rassembler.
Stéphane Zoustek.
Sur cette question du référendum, le gouvernement et le président de la République se sont piégés tout seuls. D'abord, François Bayrou en parle le premier, très vite ensuite, c'est le président de la République. Mais de quoi parlait-on à l'époque comme éventuelle question? L'interdiction des écrans, la proportionnelle, c'est-à-dire des sujets qui ne passionnent pas les Français. On était en plein conclave, l'opposition était vent debout contre la réforme des retraites, parce que quand même ce conclave a aussi contribué à réintroduire ce dossier aussi éruptif et aussi inflammable pour le gouvernement et pour le président de la République. Et qu'ont répondu les Français? Un référendum, chiche, parce que sur le principe même, tout le monde est d'accord quand on vous donne davantage la parole. Oui. Nous voulons un référendum sur la réforme des retraites. Donc à partir de ce moment-là, bon, évidemment, impossible d'imaginer que Emmanuel Macron mette un tel référendum à l'agenda, mais à partir de ce moment-là, tout référendum sur tout autre sujet serait entaché d'une suspicion de manœuvre politique. Il fait ça, c'est une manœuvre dilatoire. Maxence en parlait à l'instant. Quel sera le résultat au mieux pour les initiateurs d'un référendum? C'est une très forte abstention. Une très forte abstention, c'est un désaveu. Ou au pire, voter contre par principe, presque bêtement, mais j'exagère évidemment, en disant « Non, moi je voulais un référendum sur la réforme des retraites. J'ai pas ça, donc je ne suis pas d'accord, parce que tout ça, c'est de la tambouille politique. » Le gouvernement et le président se sont piégés. Ça me paraît très compliqué, ça me paraît très très compliqué dans les 2 ans qui viennent, de recourir, quel que soit la question, quel que soit le sujet, à un référendum.
Et c'est dommage, parce qu'il y a une espèce de trauma dans notre pays depuis 2005 autour du référendum, et il faudrait lever ce trauma, parce que c'est quand même un outil constitutionnel,
2005, plébiscité, c'était le nom.
Au traité constitutionnel européen, voilà. Et qui avait été enjambé puisqu'on était finalement allé à rebours
de la
décision des Français. Mais il faudrait réussir à réinjecter une pratique référendaire beaucoup plus saine, qui effectivement ne soit pas directement corrélée à une espèce de plébiscite pour ou contre la personnalité qui pose la question. Donc je crois qu'il y aurait intérêt, mais là dans un monde un peu plus idéal et une démocratie un tout petit peu plus fonctionnelle, à réhabiliter cet outil, et non pas seulement par la capacité de trancher, mais pour tout l'effort de pédagogie immense que vous pouvez faire sur un sujet que vous soumettez au référendum. C'est-à-dire, c'est des semaines à l'avance, comment est-ce qu'on instruit les Français aux grands enjeux, un petit peu comme le fait la Suisse, qu'on érige souvent en modèle, qui est difficilement comparable pour un milliard de raisons, mais je crois qu'il y aurait intérêt à ce qu'on puisse réintroduire cet outil qui est quand même simple, plébiscité, et qui pourrait... pas tout seul, c'est un peu comme la proportionnelle. Il ne faut surtout pas compter sur les solutions magiques, mais qui pourraient participer.
Justement, j'aimerais bien qu'on ait un mot sur la proportionnelle. Est-ce que c'est une piste de sortie de crise,
fantasmée? Ça ne peut pas être la solution magique. Et moi, ce qui m'embête un peu avec la proportionnelle, c'est l'absence de réflexion beaucoup plus systémique sur tous les effets de bord sur le système dans son ensemble. Est-ce que demain, si on a une réforme du scrutin proportionnel intégral, comme c'était le cas en 86, est-ce que le président de la République peut conserver les mêmes prérogatives? Est-ce que c'est lui qui nomme de façon arbitraire et discrétionnaire le Premier ministre, ou est-ce que c'est pas à l'Assemblée élue par la proportionnelle, en tout cas de voter la confiance de ce nouveau Premier ministre ?
Ça veut dire que ça remettrait en cause la Constitution.
Bah, ça ne tient plus.
Ça tient, il faut tout repenser, c'est pas grave. Peut-être qu'on se dit qu'on s'engage dans cette voie-là, mais ce que je trouve très étonnant...
En 86, on n'a pas mis en cause la Constitution.
Non, mais d'ailleurs, c'est bien pour ça que ça n'a pas marché, et qu'on l'a pas gardé, qu'on a fait demi-tour, parce qu'il n'y a pas eu cette pensée-là. Moi, je suis très étonnée de voir à quel point la pensée, elle est rabougrie et qu'elle a du mal à prendre plus d'ampleur et avoir le courage d'interroger le fonctionnement de nos institutions dans leur ensemble.
Maxence ?
Je rejoins tout à fait Blanche Léridon là-dessus, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'impression que la Ve République changera, mais si, elle changera, et le scrutin proportionnel changera complètement la donne, et ça ne facilitera jamais, enfin, en l'occurrence, les projections donneront à peu près la même Assemblée.
Est-ce que vous pensez qu'on est dans une crise politique ou dans une crise de régime aujourd'hui ? Blanche Léridon.
Crise politique, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est pas suffisamment chaotique pour... donc pour le moment, les institutions fonctionnent. Yael Brune-Pivet le disait encore à votre antenne ce matin, il y a des textes qui sont votés, le budget, finalement, on a réussi à l'adopter, donc ça vivote, ça continue à exister, donc on n'est pas encore totalement dans la crise de régime, mais on est dans une crise politique extrêmement profonde.
Stéphane Zumsteg.
Ce qui a vraiment changé, ça a été dit et redit, c'est qu'avant, il y avait un bloc de gauche, un bloc de droite. Mmh. Il y avait une bipolarisation de la vie politique, c'est aussi simple que ça. Avec une tripartition, dont on parlait tout à l'heure, dont on a parlé depuis des mois, eh bien, ça ne fonctionne plus. La proportionnelle était le seul moyen, paraît-il, pour le Rassemblement national d'avoir des élus. Eh bien non, il y a eu 142 députés avec ses alliés sociotistes élus. Donc à partir du moment où vous avez une telle fracturation de la vie politique, ce n'est pas la proportionnelle qui changera quelque chose.
Mm-hmm. Nous sommes déjà dans... C'est une fracturation qui va durer longtemps ?
Ah oui, probablement, parce que là on voit bien que les antagonismes sont tels, les clivages sont tels au sein de la société en ce qui concerne les opinions sur les sujets économiques, politiques, sociétaux, identitaires. Je vois mal ce qui pourrait, à part peut-être la fin du « en même temps », la fin du centre et un retour à un clivage gauche-droite, mais ce sera toujours gauche-droite. Extrême droite, parce que, quelque part, la Macronie est déjà à droite, centre, le gouvernement, les gouvernements que nous avons, la politique d'Emmanuel Macron, c'est une politique de droite, et depuis de nombreuses années maintenant. Donc, je ne vois pas que la société est tellement fracturée en ce qui concerne ses souhaits, ses attentes et ses lignes rouges, je ne vois pas ce qui pourrait simplifier, purifier les choses pour qu'on revienne à du bon vieux gauche-droite comme avant, avec donc une majorité absolue. Un moment à gauche, un moment à droite.
Et ça inquiète beaucoup de candidats à la présidentielle hein, qui se demandent vraiment quels seront leurs pouvoirs s'ils arrivent à l'Élysée, avec quelle assemblée.
Et merci à vous tous qui nous avez appelés au standard. Merci Blanche Léridon, Stéphane Zumsteg et Maxence Lambrecq d'avoir discuté avec les auditeurs de France Inter. Dans un instant, après les infos, les petits bateaux.